Les pieds sur terre, en effet, c'est maintenant. Bonjour à tous. Aujourd'hui, notre cadeau de Noël pour vous, amis auditeurs.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Bougez pas, attention, attention.
Les pieds sur terre, une émission proposée par Sonia Kronlou.
Ne vous appelez pas, c'est des manifestants, mais la rue est envahie de pourquoi.
Et pourquoi on le ferait pas plus souvent? On pourrait le faire tous les jours, on pourrait le faire 10 fois par jour, 20 fois par jour.
Nous avons cette culture en France de pour vivre heureux, il faut vivre caché. Les riches américains, me semble, ne pas se poser cette question-là. En vous permettant de venir ici, je surmonte cette appréhension culturelle que nous avons. En me disant que peut-être c'est utile, peut-être que ça peut permettre à vos auditeurs de passer 20 minutes qui aigueront leur journée ou qui leur donneront un éclairage nouveau sur le fait que des personnes qu'on ne connaît pas et vis-à-vis desquelles on pourrait avoir des a priori, finalement, sont pas si différentes que ça de nous. C'est pas un gros effort de mon côté, voilà. Donc, c'est un petit cadeau de Noël que je peux vous offrir.
Il est modeste en plus, ce monsieur prénommé Yves, car ce n'est pas un petit cadeau de Noël que nous vous offrons aujourd'hui, c'est un gros paquet avec un bel emballage, un vrai bijou en or, pas du toc. Oui, nous avons vu grand cette année pour vous, amis auditeurs, voici donc un riche, un véritable riche, très riche et en plus très gentil et très généreux. Si, si, si. Que tous ceux qui prétendent que dans les pieds sur terre, ce ne sont que des miséreux, des SDF et autres exclus qui en plus récriminent sans arrêt, que tous ceux qui trouvent que nous sommes manichéens en montrant toujours des pauvres gentils et des riches méchants, aillent se rhabiller tout de suite en moins voyant. Aujourd'hui, nous allons vous montrer qu'on peut vivre Villa Montmorency dans le triangle d'or de la France, dans une maison de 450 mètres carrés, en ayant pour voisins Xavier Niel, Arnaud Lagardère, Alain Afflelou, Vincent Bolloré, Carla Bruni-Sarkozy ou Céline Dion, qui aurait acheté l'été dernier ici une villa à 47 millions d'euros, qu'on peut vivre avec tous ces gens-là et dans cet endroit-là et avoir les mêmes préoccupations et le même cœur que les autres qui vivent dans des petites maisons moins grandes, avec beaucoup moins d'argent et parfois pas d'argent du tout. Il s'appelle Yves, c'est donc notre cadeau de Noël et même s'il possède une maison qui coûte au moins 5 millions d'euros, il roule en monospace familial, ne possède ni toile de maître ni signe ostentatoire de richesse. À 40 ans, il a pris une sorte de retraite, en tout cas il a quitté sa première activité professionnelle dans la finance internationale. À l'apogée de sa carrière, il gagnait 2 millions d'euros par an, soit 150 SMIC par mois et il va vous expliquer comment il a fait pour gagner tout cet argent, pour le garder et ce qu'il en fait jusqu'à 14h dans les pieds sur terre sur France Culture. Joyeux Noël à tous.
Bonjour.
Bonjour l'ami, entrez donc.
Merci.
Est-ce que vous voulez un café?
Donc on est chez vous là.
Eh oui, là vous êtes à la maison.
Vous entendez peut-être en bruit de fond les enfants qui prennent leur petit déjeuner. Donc mon épouse et moi avons trois filles de 13, 8 et 3 ans. Donc nous sommes dans la Villa Montmorency. C'est une petite partie du 16e arrondissement de Paris. Et dans le 16e arrondissement, il y a un terrain qui fait à peu près 6 hectares. Qui est une propriété privée, qui à ce titre est donc fermée, et qui ensuite se compose d'une centaine de maisons de taille variable, et qui fait effectivement un peu rêver de l'extérieur, en tout cas qui est source de mystère, parce que comme c'est privé, qu'on ne sait pas trop ce qui s'y passe, et ben on peut imaginer beaucoup de choses, alors que ce qui s'y passe, c'est une vie ordinaire comme ailleurs.
Et comment on fait pour entrer dans cette Villa Montmorency dont on dit qu'elle est cité interdite?
Ah ben elle n'est pas du tout interdite, elle est ouverte à tous si vous voulez être propriétaire. C'est effectivement une zone résidentielle qui est fermée au public. C'est une propriété privée, donc une sorte de copropriété, on pourrait dire, avec des gardiens à l'entrée. Voilà, donc nos amis, les gens qui nous rendent visite peuvent tout à fait rentrer, se garer dans la rue. En revanche, les touristes ne sont pas autorisés. Donc si vous vous présentez à l'entrée, effectivement, il faut que vous soyez attendu chez l'un des habitants. Ce qui m'a plu, enfin nous sommes donc une famille avec trois enfants, c'était la possibilité d'avoir une maison avec un petit jardin, tout en étant dans Paris. Donc c'est cet aspect campagne à Paris qui est absolument extraordinaire.
Quand il fait beau, on peut s'installer dehors pour prendre notre petit déjeuner, on entend les oiseaux, le fait qu'il y ait des immeubles tout autour de la villa, ça coupe du bruit de la circulation, donc on est au calme. Et puis si on fait 100 mètres, on sort de la villa et ça y est, c'est le brouhaha de Paris, c'est le métro, c'est les bus et on est dans la vie de la capitale. C'est assez surprenant.
Gentille chienne qui est toute trempée autour de promenade. Ici un petit peu. Allez, viens là. Viens.
Il y a des maisons de toute taille dans la villa Montmorency. À partir d'1 million d'euros, vous pouvez trouver quelque chose. Nous, on l'a acheté 5 millions d'euros. Et ensuite, il n'y a pas de limite. Il y a des vrais palais. Il y a un certain nombre de grosses maisons qui doivent être dans les 500-700 mètres carrés. Et puis des choses plus petites.
Alors la vôtre, elle ressemble à quoi ?
C'est un petit hôtel particulier. Donc c'est déjà une maison de belle taille. On a 5 chambres plus une chambre d'amis. On a un terrain qui doit faire dans les 300 mètres carrés, ce qui dans Paris est un luxe. Et la maison se déploie sur 3 étages et demi à peu près. Donc on a un étage ici où nous sommes actuellement avec la cuisine, salle à manger, séjour. Et puis ensuite on a 2 étages de chambres. Et tout en haut, les anciens combles qui ont été aménagés, c'est mon bureau. Donc j'ai un étage entier pour pouvoir, pendant la journée, travailler dans des conditions qui ne perturbent pas ma famille. Donc en tout, on doit être dans les 450 mètres carrés. Donc c'est chouette, hein. Enfin, c'est même trop grand. Mais franchement, moi je travaille là-haut, et puis il y a des soirs, il est 7, 8, 9 heures du soir, je ne me suis pas rendu compte que l'heure a passé. Ça fait belle durée que les enfants sont rentrés de l'école, qu'ils ont pris leur bain, qu'ils ont fait leur devoir, etc. Et j'ai rien vu. Et c'est vrai que si c'était à refaire, si je me reprojetais à l'époque où on a acheté, peut-être que je chercherais quelque chose qui serait plus un cocon familial, où on a un peu plus de proximité et on sent un peu moins étiré les uns par rapport aux autres.
Alors, vous me faites visiter un petit peu une partie de votre maison ?
Si vous voulez. Là, nous voici dans le séjour, avec sa cheminée, mon chien qui est tout gentil dans son panier à côté. Il y a notre sapin de Noël, donc ça clignote. On a une crèche aussi, sur le côté. Vous avez 2 instruments de musique, là, face à nous. Une harpe et un piano droit, un piano d'études, qui se trouve être le piano que j'avais quand j'étais enfant, et qui sert à nouveau pour ma fille cadette. Donc ma fille aînée joue de la harpe. Les harpes sont des instruments très chers. Une harpe comme ça, une harpe en taille adulte, c'est entre 12 et 20 000 euros. Et puis si vous partez sur des harpes de concert en neuf, c'est encore plus. Et donc en l'occurrence, c'est une harpe de concert.
On va peut-être y aller, non ?
Oui, doucement, il faut se préparer pour affronter le froid. Vous voyez, là, on est à l'extérieur et on entend la pluie et les oiseaux.
Ouais. Ah, c'est des magnifiques hôtels particuliers là qu'on a en face. Hein.
Globalement, oui. Globalement, c'est une succession de très belles maisons, de jolis jardins. On a fait une dizaine de mètres et maintenant on sort de la villa et nous voilà plongés dans la ville. On a dans la villa, il y a quand même beaucoup de personnes qui ne sont pas des héritiers, hein, donc des personnes qui soit par un métier dans la finance, soit par leur vocation entrepreneuriale ont créé une entreprise, puis un grand groupe ou une série d'entreprises, et on fait fortune. On pourrait être tenté d'être un peu jaloux, mais même en France, ou en tout cas jusqu'à présent, c'est possible. Alain Flelou, un Vincent Bolloré. Aujourd'hui, ces gens-là, effectivement, habitent dans de très très belles maisons. Et ce que j'aimerais, c'est des tas d'autres Français qui ont une vingtaine d'années, une trentaine d'années, aient le courage à leur tour d'entreprendre et connaissent des succès similaires.
Qu'est-ce que vous avez fait dans la vie ?
Je suis rentré dans les métiers de la finance. C'est un métier où j'étais correctement payé. Mais en plus de mon salaire, j'avais des stocks options, comme beaucoup de cadres d'entreprises cotées peuvent avoir. Et puis, mais surtout, j'avais aussi la possibilité d'investir dans les opérations que nous organisions. Je participais à des décisions d'investissement qui engageaient des centaines de millions d'euros, parfois même des sommes qui pouvaient dépasser le milliard d'euros. Au moment où j'ai quitté pour ensuite prendre mon autonomie, je devais être à peu près à 230 000 euros annuels. Donc c'est considérable. Mais ce n'est qu'un début par rapport à ce que en fait, j'ai pu gagner. Là où j'ai eu beaucoup de chance, c'est que ça a été sur une période qui était la période grosso modo 2000 à 2007, 2008. Les premiers investissements sont arrivés à leur terme. Et on peut considérer que je gagnais 1 million d'euros, 2 millions d'euros par an. J'ai été chanceux, au bon endroit, au bon moment, probablement. Je me suis dit, j'ai maintenant un patrimoine, qui est un petit patrimoine, mais conséquent pour un individu, et qui me permet d'envisager maintenant d'utiliser ce patrimoine pour investir dans des PME. Et donc, c'est ce que j'ai décidé de faire. Je me suis mis à mon compte pour gérer ce patrimoine-là en identifiant des PME qui pourraient devenir des filiales de mon mini-groupe, mini-holding familial. Voilà, c'est l'activité que je fais depuis 4 ans et demi, à peu près, 5 ans. Et là, par exemple, je suis penché sur la restauration et sur les pizzerias. Ça ne sauvera pas la planète, mais je n'ai pas non plus à rougir de cette activité-là. Elle est utile, elle est noble. Notre idée, c'est de viser une dizaine d'établissements et je vais retrouver mon investissement et, disons, 15% de rendement annuel.
Alors vous, qu'est-ce que l'argent vous permet ou vous a permis, dont vous rêviez ?
Bah ça me permet la liberté. Ça me permet de faire ce qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire aller rejoindre un entrepreneur social pour consacrer du temps à essayer de l'aider sans me dire mince, je suis en train de cramer une demi-journée et comment je vais faire pour payer mon loyer à la fin du mois.
Là, vous allez travailler gratuitement.
Oui. Donc nous voici arrivés dans ces locaux pour une réunion avec un entrepreneur social que j'aime beaucoup et que j'accompagne. Donc, là c'est du pur bénévolat, c'est dans le but d'aider notre société. Donc je ne fais pas du tout ça pour de l'argent. On va essayer de les trouver.
Comment on fait pour gagner autant d'argent en quelques années, en fait, quand on est dans la finance ?
Alors, ça peut prendre différentes facettes. Moi, la facette que j'avais, c'était une petite équipe. On nous confie de l'ordre de 6 milliards d'euros en nous disant, voilà, cet argent, on aimerait que vous y veilliez avec attention. Donc, identifier des entreprises, acheter ces entreprises avec l'argent qu'on vous confie, accompagner ces entreprises, faites en sorte que dans la durée, ces entreprises fleurissent, elles vaudront davantage que ce que vous avez acheté au départ. Et donc l'argent qu'on vous a confié quelques années plus tard a été démultiplié. Et moralité, moi sur la période 2000-2008, j'ai constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros.
Est-ce que la France maltraite ses riches ?
Oui, je le crois. Je crois qu'il y a, un vrai déficit de compréhension. Idéalement, ce qu'il faudrait faire, je crois, c'est réussir à ouvrir les yeux les uns sur les autres, sur le fait qu'on a envie ensemble de construire ce pays, arrêter de se jeter la pierre, mais plutôt remonter les manches ensemble, en se disant qu'est-ce qu'on fait pour concrètement. Après,
mais concrètement, l'impôt, c'est de la solidarité. Donc vous, est-ce que vous trouvez que vous êtes trop imposé ou pas?
Est-ce que c'est de la solidarité? La solidarité, je trouve qu'il est regrettable qu'elle s'exprime de façon autoritaire par le biais, par exemple, de l'impôt. Je trouve que la vraie solidarité, c'est quand vous décidez par vous-même d'offrir quelque chose à quelqu'un. C'est ça, d'être solidaire. L'impôt, c'est une contribution qui est fondée, dans le cadre d'une organisation sociale, au budget collectif.
Est-ce qu'elle est trop importante pour les très riches, comme vous?
C'est monstrueux. Honnêtement, là, moi, d'amis et de gens autour de moi, tout le milieu de la finance actuellement, et pas que le milieu de la finance, c'est le milieu des chefs d'entreprise et des dirigeants de grands groupes, est traumatisé par une culture ambiante qui ne cesse de dire c'est super simple, il suffit qu'on leur prenne leur argent. Et au point où les décisions de partir sont vraiment réelles. Moi, j'y pense, mais pour d'autres raisons, pas pour des raisons fiscales. J'y pense parce que par ailleurs, je trouve que ce pays, collectivement, refuse de se réformer. J'ai l'impression qu'on est tous une bande de gamins dans une cour de récréation. Et on sait tous, depuis longtemps, que la récréation elle est terminée. Qu'on a une gentille maîtresse qui, depuis une demi-heure, dit « Allez les enfants, en classe !» Et on est tous là à dire « Allez, on va gratter encore un quart d'heure. » On sait très bien que la récréation elle est terminée, et depuis longtemps déjà. Mais on gratte encore un quart d'heure. Et ça ne fait que s'aggraver. Et j'ai l'impression qu'on est tellement incapable de se réformer qu'on ne se réformera que lorsqu'on sera vraiment dans la douleur. Quand je vois les images de ce qui se passe en Grèce, je me dis, moi, j'ai pas envie d'attendre qu'il se passe ça ici avec mes enfants. Surtout Villa Montmorency. Parce que Villa Montmorency, tant qu'on est dedans, on est préservé. Mais potentiellement, n'importe qui nous pointe du doigt comme étant c'est vous les coupables, peut à un moment avoir un instant de déraison. Et il suffit d'une fois pour que quelqu'un assassine l'un de nos proches. Donc je pense partir, mais pour cette raison-là. Parce que le jour où il va falloir se réformer, le réveil va être très douloureux. Alors là, nous venons d'arriver à la paroisse Notre-Dame de l'Assomption, donc, paroisse catholique dans le 16e arrondissement de Paris. Et je viens là, comme toutes les semaines, pour un temps de catéchisme avec des enfants qui sont en CE2. Donc je suis papa cathé. Il y a souvent des mamans, mais il y a parfois des papas, et voilà, j'en suis un. C'est un parent qui prend un petit groupe d'enfants, en l'occurrence, ils sont 6 dans mon groupe, et au fil de l'année, les accompagne dans le catéchisme. Mon père, normalement, j'ai vu Simone, oui. Qui me disait qu'elle serait là
pour l'adoration.
Pour le temps d'adoration. Je pense qu'elle est
à l'oratoire.
L'oratoire.
Oui.
J'ai acheté un œil.
Oh ben non, mais elle y sera.
De son, elle y sera.
Ah oui. Il y a adoration toute la journée.
À mon avis, il y a trois temps là, qu'on va gérer tout à l'heure. Un temps tous ensemble, comme on a l'habitude de le faire. Un temps en petit groupe et puis un temps à l'oratoire.
Ça fait
un tir groupé. On part tous ensemble à l'oratoire.
Oui,
on fait un petit temps d'oratoire. Et ensuite, on se redivise dans nos trois petits groupes où on gère avec les enfants. Ce qui nous permet aussi de faire un petit débriefing sur ce que c'est que l'adoration avec eux. D'échanger
tout avec eux. C'est le mieux.
Et puis, ça nous permet de vraiment nous synchroniser.
Voilà.
Esprit de sainteté, viens esprit de lumière.
De reconnaissance, chantons ce jour solennel.
Là, nous sommes avenue Mozart, donc dans le 16e arrondissement de Paris. Et nous marchons aux côtés d'enfants de la paroisse qui vont au-devant des habitants pour leur souhaiter un joyeux Noël dans le cadre de l'Avent et de la Saint-Nicolas. Donc on a un Saint-Nicolas qui nous précède avec un âne. Et les enfants distribuent des vœux, des morceaux de chocolat, des pains d'épices. Voilà, en, en souhaitant donc une bonne année et un joyeux Noël à tout le monde. Vous voulez un petit peu de la source sonore ? Et regardez les sourires des adultes. On est dans Paris, d'habitude tout le monde tire la tête. Et là, voilà, les commerçants, les gens qu'on croise, ils ont un sourire éclatant. Parce qu'ils perçoivent cette tendresse, cet amour qui leur vient via les enfants. Et c'est réjouissant. Je suis heureux d'être là avec eux. Là, donc ça fait partie des activités tournées vers notre quartier, de façon un peu ludique, un peu sympathique. On a également des activités qui sont tournées vers les SDF. Comme beaucoup de paroisses de Paris, on a répondu à l'appel de notre cardinal pour ouvrir nos locaux et leur permettre de disposer de locaux chauffés pendant l'hiver. Et donc, de la mi-décembre jusqu'à la mi-mars, tous les soirs, on a 5 SDF qui dorment dans nos locaux. Et puis, on a des paroissiens qui restent et qui dorment sur place aux côtés des SDF. À titre personnel, je passe quelques nuits comme ça dans l'hiver. Mon épouse aussi prépare quelques repas. Voilà, on sympathise, on bavarde, on prépare, on dresse la table ensemble avec eux, on partage le dîner, puis assez tôt, sur le coup des 9h à peu près, on range tout pour commencer à installer à la place nos matelas qu'on répartit aux quatre coins d'une salle qui fait une quarantaine de mètres carrés peut-être. Donc c'est assez différent du confort d'un hôtel particulier. Et puis, théoriquement, à 22h, on a extinction des feux. Et puis, aux alentours de 8h, bah, chacun prend sa route. Car ce sont aussi des gens qui ont un métier, qui font ça, qui dorment, donc ils partent pour leur travail. Moi, ce que j'espère donner, c'est du réconfort à cette personne en lui montrant que pour nous aussi, c'est un humain. On va dormir avec elle pour de façon fraternelle, comme vous tiendrez la main à quelqu'un qui souffre. Ça relève de la solidarité et en termes chrétiens, de la charité, de l'amour de Dieu et de l'amour de notre prochain. Ce soir, on a avec mon épouse un dîner de gala pour une association caritative. C'est l'occasion de soutenir cette association et par ailleurs, pour nous, c'est l'occasion d'un excellent dîner car ça se fera dans de très bonnes conditions. Ce sont des chefs étoilés qui s'occuperont en cuisine de préparer le repas. Cherchons tous l'heureux village qu'il a vu naître sous ses toits. Offrons-lui le tendre hommage et de nos cœurs et de nos voix.
Madame, je vous présente donc des samoussas fromage, samoussas légumes et chromaquis d'escargot.
C'est un dîner pour de bienfaisance, un gala d'une association qui vient en aide à des enfants au Cambodge. Ils font un événement qui leur permet de lever un peu d'argent en faisant participer financièrement les gens au dîner. Et puis, je crois qu'il y a une tombola et des trucs comme ça pour aider l'association et compléter sa trésorerie.
Quel rapport y a-t-il entre le fait de gagner de l'argent et être catholique ? Est-ce que l'un et l'autre cohabitent facilement ?
En tant que chrétien, se pose une difficulté, on est mis en garde contre l'argent. Et il faut réussir à trouver la bonne relation à l'argent. Ce qui est dur, ce qui est tout le temps un peu un piège, une tentation, de se dire cet argent il est à la fois utile, c'est un serviteur qui peut être extrêmement précieux, et en même temps il faut réussir à le laisser à sa place de serviteur, et que ça ne devienne pas votre maître, ou pire encore, une idole, et de fait un faux dieu, mais qui vous fascine et qui devient votre raison de vivre. En tant que chrétien, de par les enseignements de Jésus, notre attention est particulièrement portée sur cette difficulté-là. Contrairement à beaucoup d'idées reçues, quand vous cherchez à gagner de l'argent vraiment sur le long terme, ça devient compatible. Si vous cherchez à gagner de l'argent sur le court terme, vous pouvez effectivement prendre des décisions qui sont uniquement basées sur une performance très très courte, quitte à raconter des sornettes aux autres ou faire des choses qui s'avéreront négatives et dont vous ne supportez pas le coût, entre guillemets. Quand vous avez une vision long terme, vous dites voilà, on achète aujourd'hui une entreprise et notre but c'est que dans 5 ans, dans 10 ans, cette entreprise elle soit encore plus belle. Il va falloir que petit à petit, ou brutalement, on ait de la production dans d'autres territoires. Donc peut-être il faut déplacer des populations, déplacer des sites de production et par conséquent des zones de travail, d'emploi. Cette vérité, elle n'est pas forcément agréable, mais elle correspond au monde dans lequel on est sous l'angle de la compétitivité de cette entreprise. Et là, pour le coup, moi, je le vis vraiment bien. Ah voilà, voilà.
C'est qui arrive ?
Alors là, c'est le grand chef qui va officier en cuisine, 3 étoiles, et qui lui aussi offre son temps et va diriger en cuisine les suites des événements. Ce dîner, je suis sûr qu'on va se régaler.
Gloria, 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 gloria in excelsis Deo. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux. Et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloria, 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 gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo. Cherchons tous l'heureux village qu'il a vu naître sous ses toits. Offrons-lui le doux hommage de nos cœurs et de nos voix. Gloria, 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 gloria in excelsis Deo. Gloria, 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 gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre avec un millionnaire pour Noël. Notre cadeau de cette année, une rediffusion d'une émission qui avait été proposée à votre écoute pour la première fois exactement il y a 4 ans, le 24 décembre 2012. Un reportage signé Rémi Douat, réalisé par Emmanuel Geoffroy. L'attaché de production, c'était bien sûr déjà Sandrine Chaperon. Merci beaucoup à Yves. Des infos sur ce qu'Yves est devenu depuis tout ce temps, vous les trouverez sur notre site où vous pouvez aller faire un tour. Vous apprendrez des tas de choses. FranceCulture.fr à la page des Pieds sur Terre. N'hésitez pas non plus à vous rendre sur les réseaux sociaux. Nous avons une page Facebook et un compte Twitter qui vous attendent avec impatience.